Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, merci d'écouter Radio Prague International. Voici les titres de ce journal. La situation épidémiologique continue de s'améliorer en République tchèque et par conséquent, les visites dans les maisons de retraite seront à nouveau possibles dès samedi. La Commission européenne a confirmé le conflit d'intérêts du Premier ministre Andrej Babiš. Quelques 3572 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensés en République tchèque lundi, soit 800 de moins qu'il y a une semaine, selon les chiffres publiés ce mardi par le ministère de la Santé. Le taux de positivité des tests est tombé à 20,6%, alors que début novembre, il était de 38%. 61 personnes sont mortes des suites du coronavirus lundi, portant le bilan des décès à 8200 depuis le 1er mars. Le nombre de personnes hospitalisées s'est élevé à 4500 dimanche, dont plus de 650 étaient dans un état grave. L'index national de risque est calculé sur la base de plusieurs paramètres, se maintient à 57 points depuis le 23 novembre dernier, un chiffre qui correspond au troisième des 5 niveaux d'alerte. Un assouplissement des mesures de restriction est prévu par le gouvernement à compter de ce jeudi, avec notamment la réouverture des restaurants et des commerces, ainsi que la levée du couvre-feu. À compter de ce samedi, les visites dans les maisons de retraite et autres centres de soins pour personnes âgées dépendantes en République tchèque seront à nouveau autorisées, a annoncé lundi la ministre du Travail et des Affaires sociales. Les visiteurs devront présenter un test PCR ou antigénique négatif vieux de 48 heures au maximum. En République tchèque, les maisons de retraite sont fermées au public depuis le 9 octobre. Un dépistage systématique du Covid-19 est opéré sur les résidents de tous les établissements du pays jusqu'à ce vendredi, tandis que le personnel devra passer les tests antigéniques une fois tous les 5 jours jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Celui-ci est prévu jusqu'au 12 décembre, mais il risque d'être prolongé. La version finale du rapport d'audit de la Commission européenne qui concerne le Premier ministre tchèque et les activités entrepreneuriales qu'il a exercées avant d'entrer en politique confirme le conflit d'intérêts d'Andrej Babiš. Les autorités de Prague devraient recevoir le document en janvier prochain. L'information a été publiée lundi par l'agence de presse tchèque ČTK qui se réfère à plusieurs eurodéputés tchèques. Selon eux, la Commission constate dans son rapport que le Premier ministre continue de contrôler son ancien groupe agro-industriel et médiatique Agrofert, l'un des principaux bénéficiaires des subventions de l'Union européenne en République tchèque, malgré le placement de ses actifs dans des fonds fiduciaires. En juin dernier, le Parlement européen a reproché lui aussi au Premier ministre d'être en situation illégale. Pour sa part, Andrej Babiš a toujours nié l'existence de tout conflit d'intérêts. Pour la 4e année consécutive, la République tchèque a affiché le taux de chômage le plus faible au sein de l'Union européenne en 2019, selon les données publiées lundi par l'Office tchèque des statistiques dans le cadre de sa publication annuelle. Ce taux s'est élevé à 2% contre une moyenne de 6,3% pour l'ensemble des 27 et de 7,5% pour les pays de la zone euro. L'Allemagne a possédé le deuxième taux le plus faible avec 3,2%. La Grèce figurait une nouvelle fois en queue du classement avec 17,3%. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Le temps sera plutôt ensoleillé mercredi, jour de fête des Blancas, avec une alternance de belles éclaircies et de passages nuageux. Les températures varieront entre moins 3 et 1 degré. C'était les informations de Radio Prague International, présentées par Magdalena Hrozinkova. Très bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission de la rédaction française de la radio tchèque Radio Prague International. On parlera aujourd'hui urbanisme et évolution de l'espace de la ville avec une exposition consacrée justement à l'évolution de l'espace urbain de la ville de Prague. Ce sera en début d'émission, Prague toujours et encore avec une initiative de la mairie du premier arrondissement qui concentre une grande partie, vous le savez, du patrimoine de la capitale tchèque et qui est d'ordinaire le cœur touristique battant de la ville. Cette initiative, donc, pour expliquer l'origine et l'histoire du nom des rues. En cette période de l'Avent, une nouvelle association franco-tchécoslovaque créée à Marseille organise ce jeudi 3 décembre un goulash solidaire à destination des plus démunis et à l'occasion de la Saint-Nicolas. On en parle en seconde partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. La forme d'une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d'un mortel. Cette citation détournée d'un vers de Charles Baudelaire par Julien Gracq pour l'incipit de son ouvrage « La forme d'une ville » semble avoir été pensée pour Prague. Les nombreux projets urbanistiques qui se matérialisent ou qui sont encore au stade de simples réflexions contribue au dynamisme et au développement de cette ville en mouvement. Depuis le 23 septembre, le Centre d'architecture et de planification métropolitaine consacre à ce sujet une exposition sur 25 projets majeurs au sein de la capitale tchèque. Joseph Lefer.
Le Camp est un lieu consacré à la planification urbaine situé non loin de Karlovo Náměstí, en plein cœur de Prague. Le public peut venir s'y renseigner et y poser des questions sur le futur de la ville. En d'autres termes, il s'agit d'un endroit où l'on peut s'informer sur les projets à venir dans les 5, 10 ou 20 prochaines années dans les différents quartiers de la ville aux entours. L'exposition intitulée « Priorités de Prague » est actuellement présentée au Camp. Elle s'inscrit dans un cycle d'expositions intitulé « Prague Tomorrow » et en est la cinquième. Cette fois, 25 projets considérés comme les plus importants ont été sélectionnés. Ils ont ensuite été répartis dans les 5 catégories suivantes: les nouveaux quartiers, les nouvelles connexions, les nouvelles opportunités, c'est-à-dire valoriser les bâtiments historiques sous un autre jour, les nouvelles places et enfin les nouveaux parcs. Après sa fermeture en raison de la pandémie de coronavirus, des panneaux d'information ont été disposés sur Marianské náměstí afin que tous puissent s'informer sur le développement de lieux qui leur sont familiers. Avec l'assouplissement des mesures en République tchèque, le Centre d'architecture et de planification métropolitaine va rouvrir ses portes ce jeudi. Radio Prague International avait pu rencontrer Stjepan Bertel, directeur de programme au Camp, quelques jours avant les mesures qui ont entraîné la fermeture des musées et autres lieux culturels.
Nous choisissons les priorités en nous basant sur des discussions avec des urbanistes et des politiciens. Nous voulons savoir ce qu'en pense le public et c'est pour cela que nous avons mis en place dans l'exposition des jetons en carton que vous pouvez introduire dans une urne correspondant au projet que vous voulez voir se concrétiser en tant que citoyen. Il est intéressant de constater que ce sont les infrastructures qui sont mises en avant. La couronne périphérique autour de Prague, la voie de chemin de fer connectant l'aéroport et éventuellement la nouvelle ligne D du métro. Ce sont les projets qui intéressent le plus.
Les 5 catégories établies comptent chacune 5 projets d'aménagement retenus pour l'exposition. Il est difficile de savoir laquelle de ces priorités sera réalisée la première. Outre un coût financier important pour certains projets, cela reste au final une décision politique. Prague compte en son sein un nombre considérable d'espaces inoccupés qui prennent la forme de friches industrielles. Pour la plupart, ce sont d'anciennes usines ou dépôts ferroviaires qui ne remplissent plus leur fonction originelle. Dès lors qu'elle se situe au sein même de la ville, l'intégration des friches à cette dernière représente un chantier bien plus abordable que de construire de nouvelles infrastructures en périphérie. Développer de nouveaux quartiers dans ces espaces abandonnés pourrait grandement atténuer la crise du logement de la capitale, selon Stjepan.
Certains projets sont plutôt sur du court terme ou se matérialisent déjà, comme dans les friches industrielles de Smíchov ou la passerelle de Troja sur la Vltava qui a été reconstruite après son effondrement il y a 3 ans. Il y a également des projets qui mettront des dizaines d'années et des milliards de couronnes tchèques pour être réalisés. J'espère en tout cas que tous ces projets verront le jour, mais cela ne sera ni aujourd'hui, ni demain, ni les jours à venir.
À ces exemples de projets appartenant aux catégories nouveaux quartiers et nouvelles connexions s'ajoutent d'autres réalisations concernant les places et les parcs qui constituent des lieux communs et favorisent les interactions entre les habitants en plus d'offrir des espaces de détente. De nombreux projets ambitieux sont qualifiés de nouvelles opportunités. Prague s'affirme comme riche d'un point de vue culturel et historique, mais cela repose sur des considérations appartenant au passé selon le Camp. L'un des grands défis de la ville relève de la préservation de son héritage historique important, tout en créant de nouvelles attractions pour les visiteurs et surtout les résidents.
I think that there's a lot of these projects are a lot of the ones that we are showing.
Beaucoup des projets que nous montrons dans cette exposition sont en fait localisés près de la rivière Vltava, que ce soit le parc sur Rohanski Ostrov, le nouveau quartier à Bubny, ou encore la philharmonique juste en face, la nouvelle salle de concert située au bord de l'eau, jusqu'au projet Confluence, Soutok en tchèque. Il y a bien un accent mis sur les projets le long de la rivière. Néanmoins, certaines priorités se trouvent à la périphérie de Prague.
But there are also, you know, priorities which are on the outskirts of Prague.
Ces différents projets ont pour but d'accroître la qualité de la vie dans une ville dynamique à taille humaine et dont certains points positifs ne sont pas communs à toutes les capitales européennes, à commencer par le réseau de transport.
I think Prague has an incredible public transportation.
Prague a un incroyable réseau de transport public. On peut se rendre très rapidement d'un point de la ville à un autre et c'est donc un avantage important. C'est aussi encore assez abordable de vivre à Prague, même si la crise du logement est présente et que les prix montent. Prague est une ville dense où il fait bon vivre.
Prague is a compact city where it's just easy to live in. I'm glad to see that Prague is changing and there are new projects coming. I think it's.
Je suis content de voir que Prague évolue et que de nouveaux projets émergent. Beaucoup de gens disent que rien ne se passe et nous voulons justement montrer avec cette exposition que Prague est en train de changer. Des projets pleins de sens portent la ville dans le 21e siècle.
Meaningful projects which will kind of push Prague to the 21st century. So yes, definitely.
Dès jeudi prochain, il sera de nouveau possible d'aller voir l'exposition Prague Tomorrow, Prague's Priorities au camp. Il était prévu qu'elle prenne fin le 23 décembre, mais en raison de la fermeture exceptionnelle du camp pendant 2 mois, elle sera toujours présentée en janvier 2021.
Qu'elle s'appelle Vejvodova, Vodichkova ou encore Mezibranska, certaines rues dans le centre historique de Prague ont une signification et une origine parfois bien mystérieuses. C'est pourquoi la mairie du 1er arrondissement, là où se trouvent la plupart des quartiers historiques de la capitale tchèque, prévoit d'installer des petites plaques bleues explicatives. Marion Gallard nous en dit plus.
Vieille ville et quartier juif d'un côté de la rivière Vltava, Malastrana et Hradčany, le château de Prague de l'autre, tous ces quartiers qui, en temps normal, attirent chaque année des millions de touristes, se situent dans le 1er arrondissement de Prague. Pour le moment, la municipalité a sélectionné 73 rues dans le cadre de ce projet. La plupart d'entre elles, bien évidemment, portent le nom de Tchèques célèbres tels que František Palacký et Josef Jungmann, personnages emblématiques du réveil national au XIXe siècle ou encore du poète Jan Neruda. Mais quels étaient les noms de toutes ces rues il y a 100 ans, quand l'allemand était encore la langue principale à Prague, ou il y a plusieurs siècles? Pourquoi certains noms ont-ils été conservés et d'où viennent-ils? Archiviste retraité et mémorialiste de Prague, auteur d'une douzaine de livres, Antonín Ederer, a été mobilisé pour ce nouveau projet afin d'expliquer la manière dont les rues du centre historique ont été baptisées. Ederer, qui a rédigé la plupart des textes explicatifs, souligne que la rue Vodichkova, par exemple, s'est appelée rue de l'eau pendant plus d'un demi-millénaire, ou du moins, il semblerait.
Les noms des rues étaient en allemand sous le règne de Marie-Thérèse et le sont restés ensuite. Le tchèque n'a pris le dessus qu'à partir du XIXe siècle. Wasserstrasse était parfois traduit par rue Vodny ou rue Vodnitska. Mais ce nom est resté usité pendant 500 ans. Monsieur Vodichka était un boucher fortuné, propriétaire de la maison du numéro 699, aujourd'hui Palac ou Novaku. Donc ce nom était lié à cet homme et non à un génie ou déesse des eaux, ni même à l'eau en tant que tel.
Antonín Ederer affirme qu'il retrace l'histoire la plus récente des noms des rues. Pour cela, il s'inspire en partie de la chronique royale de Prague, écrite il y a un siècle par un collègue archiviste nommé František Ruf, et des œuvres du folkloriste et poète Karel Jaromír Erben, plus connu pour son recueil de légendes populaires intitulé Kytice. Ces plaques bleues explicatives devraient être installées au printemps, juste à temps donc pour un pique-nique sur l'île de Kampa, nommée ainsi car, au XVIIe siècle, des soldats espagnols y ont établi un campement pendant la bataille de la Montagne Blanche, alors qu'il s'agissait d'un champ. Mais Antonín Ederer raconte encore une toute autre histoire à propos de Kampa.
Kampa je patrně z latinského campus, což znamená pole.
Le mot kampa tire son origine probablement d'un mot latin campus signifiant champ ou lieu. Il y avait là des pêcheurs et des champs. Quand Hradčany, le quartier du château de Prague, a brûlé en 1541, les restes calcinés ont été transportés à Kampa, qui s'est ainsi étendu d'un mètre ou deux. L'île s'est développée plus tard, au XVIe siècle. Le nom vient probablement du mot « champ », mais peut-être aussi du surnom de Tycho Ganzeb, un parent du célèbre astronome Tycho Brahe.
Si vous vous demandez dans quelle mesure toutes ces histoires seront détaillées sur les plaques, sachez que chacune d'entre elles aura son propre QR code. Il suffira donc de le scanner pour pouvoir lire l'histoire en entier.
Et on parle culture tchèque et slovaque, gastronomie, mais aussi solidarité dans la rubrique Panorama du jour.
Panorama.
Panorama. Goulash, c'est le nom d'une nouvelle association franco-tchéco-slovaque créée à Marseille. Et c'est aussi le plat qui sera distribué à des personnes dans le besoin, dans les rues de Marseille, à l'occasion du premier événement organisé par cette association. Ce sera le jeudi 3 décembre et ce sera une sorte de Saint-Nicolas solidaire et caritative. Derrière ce projet associatif et culturel, trois jeunes femmes, dont Magdalena Rejkova, installée de longue date dans la cité phocéenne, et pour les auditeurs et les auditrices et les lecteurs et les lectrices qui s'en souviennent, également notre ancienne collaboratrice Anne-Claire Veluire. Au micro de Radio Prague International, Magdalena Rejkova nous en dit plus sur la jeunesse de l'association.
Je vais peut-être commencer par ma motivation personnelle, parce que comme j'ai déjà un blog, Bouillabaisse, où j'écris mes histoires à Marseille, à travers ce blog, il y a pas mal de gens qui me contactent, qui me sollicitent pour plein de diverses questions, choses. Soit les Tchèques qui viennent à Marseille, soit les Français qui veulent se renseigner sur la République tchèque, etc. Alors, depuis un moment, j'avais déjà l'idée de créer de ça quelque chose de plus large, plus organisé peut-être. Et deuxièmement, en parlant avec d'autres Tchèques et Slovaques à Marseille, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à avoir la même envie. D'organiser un événement de temps en temps, un atelier, donner un cours de tchèque, pourquoi pas. Et qu'à Marseille, il n'y a pas d'association pour cela. Il faut dire qu'il y a une association qui s'appelle Amitié Franco-Tchèque de Merard, qui est à côté de Marseille, qui fonctionne très bien et qui fait une école pour les enfants des familles franco-tchèques, etc. Mais il fonctionne, il me semble, plutôt comme une association de compatriotes. Alors que notre idée, c'était pas vraiment ça. C'est plutôt de partir de la culture tchèque ou slovaque, parce qu'on les connaît le plus, mais plutôt faciliter, grâce à nos cultures, faciliter les rencontres avec d'autres cultures. Comme Marseille, c'est quand même une ville cosmopolite et ça fait... La richesse de Marseille, c'est la multiculturalité, etc. Notre but, c'est vraiment de s'implanter sur le terrain et grâce à notre culture, faire des rencontres, échanges avec d'autres cultures.
Alors, pourquoi ce nom de goulash pour l'association? Parce que le goulash, c'est quand même un plat hongrois à la base, hein, même si c'est un mets qui a essaimé dans toute l'Europe centrale.
Alors, le nom, il y avait bien sûr un débat autour du nom. Déjà, on a une Française, aussi une Slovaque dans l'équipe. Et Lucia, par exemple, comme elle est Slovaque, elle insiste un peu sur le fait que notre nom, ça soit quand même quelque chose de plus universel, que ça ne soit pas que tchèque. Du coup, on a abandonné tous les noms dans le titre comme Amitié, Tchèque, Slovaque ou autre. Et on a cherché quelque chose de plus original. On a pensé vite à la nourriture parce que c'est quand même un élément qui fait le lien. On a parlé de pivo, chleba, etc. Et après, on s'est dit, pourquoi pas goulash? C'est vrai, c'est un plat hongrois à la base, mais ça reste quand même typique même pour la Slovaquie, la République tchèque et l'Europe centrale en général. Et en plus, ça correspond bien à notre idée d'échange ou certaines mélanges de cultures.
Est-ce que c'est pas un peu risqué de créer une telle association en pleine pandémie alors que de nombreux événements risquent à tout moment d'être annulés?
Ça peut sembler risqué de créer une association en ce moment, mais finalement pas forcément. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que de créer une association, c'est aussi du boulot administratif. Et pour ça, je pense que c'est un bon moment. parce qu'on a assez de temps pour tout faire, pour tout préparer. En plus, tout est nouveau pour nous. Alors, c'est vrai, on fait déjà des petites erreurs. On a fait un peu le goulash dans l'administration française. Et c'est pour ça, c'est bien pour nous d'avoir le temps, pour être sûr qu'on a bien compris, on est bien prêt pour la période après. Et en ce qui concerne l'année 2021, bien sûr, rien n'est sûr pour l'instant, mais on espère pouvoir faire quelques événements, même si ça sera à une petite échelle. On se rend compte que ça sera avec un petit public, ça va être des petites choses, mais c'est pas grave, je pense, pour tester, pour démarrer, pour vraiment voir comment on fonctionne déjà nous comme équipe, comment on fonctionne avec le lieu, ça peut être même bien. Et bien sûr, on espère pouvoir faire au moins quelque chose.
Alors, vous vous fixez l'horizon 2021 hein, pour organiser un premier festival. Comment est-ce que vous voyez les choses
hein? À la base, c'était aussi une raison pour laquelle on voulait créer l'association, parce qu'on a connu un festival culturel tchèque qui a lieu à Brême, en Allemagne, qui s'appelle Taxedělajaro. Et on voulait organiser un peu la suite de ce festival qui va s'appeler le Printemps tchèque. Ce qui nous plaît dans ce festival en Allemagne, c'est qu'il accueille des artistes tchèques contemporains, notamment les écrivains, les illustrateurs, etc. Et en plus, une de ses organisatrices va déménager à Marseille. Du coup, ça serait l'occasion de faire une sorte de suite de ce festival à Marseille. En plus, elle a aussi le know-how déjà de comment faire, etc. Et en plus, à Marseille, il y a aussi Marek, qui est un très bon musicien tchèque, qui a pas mal de contacts dans la musique. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. Et si tout va bien, on voudrait essayer d'organiser ce petit festival de littérature, musique, animation, etc. Bien sûr, rien n'est sûr pour l'instant, mais on espère bien de pouvoir essayer vraiment faire l'année zéro de Printemps tchèque l'année prochaine. Et on invite bien sûr tout le monde qui serait intéressé de participer ou juste de nous aider, de ne pas hésiter de nous contacter.
Mais avant cela, il faut quand même dire que vous avez une sorte d'événement inaugural hein, qui est prévu le 3 décembre, la célébration anticipée de la Saint-Nicolas, qui est quand même une fête importante en Tchéquie et en Slovaquie pendant la période de l'Avent, et une fête que vous avez imaginée avec un aspect caritatif. Alors comment ça va se passer ?
Exactement. Comme la culture est en arrêt maintenant, on peut rien faire. On avait quand même envie de commencer avec une activité. Et comme maintenant c'est la période avant Noël, on s'est dit pourquoi pas un événement caritatif et pourquoi pas un goulash solidaire. En plus, il y a Anne-Claire qui est dans notre équipe, qui est française mais qui a vécu à Prague et qui a beaucoup aimé la Sainte-Nicolas. Alors on s'est dit on va faire peut-être quelque chose autour de la Sainte-Nicolas. Et d'où l'idée d'organiser goulash suspendu de la Sainte-Nicolas. Je pense que tout le monde connaît le principe du café suspendu qui est que vous prenez un café mais vous payez deux pour une personne nécessiteuse. Et nous, on va faire pareil, sauf que ce sera avec le goulash. Du coup, jeudi le 3 décembre, on va cuisiner le goulash dans un centre autogéré, dans le centre de Marseille, où les gens pourront venir acheter le goulash à midi, à prix libre, à emporter, bien sûr, dans ces conditions. Et avec cet argent, on considère de préparer une deuxième quantité qu'on va ensuite aller distribuer dans les rues de Marseille et donner aux gens de la rue. Là, on va collaborer avec une association locale qui s'appelle Accueil du jour, qui connaît très bien le terrain et qui nous a indiqué aussi qu'il y a pas mal de SDF dans les rues de Marseille qui viennent de l'Europe centrale. Alors, on espère de leur faire plaisir avec ce plat typique de leur culture, mais on espère aussi de faire des échanges, faire des rencontres avec d'autres gens qu'on va rencontrer.
Et puis enfin, peut-être pour finir, quelles sont les conditions pour être membre de l'association ?
L'adhésion à l'association est très simple, soit via plateforme Hello Asso, soit via notre mail goulash.marseille@gmail.com. On a fixé l'adhésion à 10 euros par an. Et soyons bienvenus toutes les personnes qui ont envie de collaborer avec nous, qui ont les idées qu'elles aimeraient développer et qui sont aussi en accord avec nos principes qui sont le partage, l'ouverture, la solidarité et l'intérêt non seulement pour les cultures tchèques, slovaques ou françaises, mais aussi d'autres cultures du monde.
Voilà. Voilà, c'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague International. Je vous invite à consulter la page Facebook de l'association Goulash à Marseille. Ça vous donnera plus d'informations à la fois sur l'événement et également comment devenir membre de cette association culturelle et solidaire, une association franco-tchéco-slovaque. L'actualité tchèque en français, ça continue non seulement sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous invite vivement à consulter notre page Facebook, mais également notre compte Twitter. Radio Prague International a également un profil Instagram, mais en anglais. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent et ahoy.